Les matins débutent avec le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 12 millions d'élèves font leur rentrée des classes ce lundi. Une rentrée très particulière au lycée avec la réforme du ministre Jean-Michel Blanquer qui débouche sur un tout nouveau baccalauréat. La suppression des filières S, ES et L s'annonce perturbante pour les lycéens.
Et puis la campagne pour l'élection présidentielle débute aujourd'hui en Tunisie. Le Parlement sera également renouvelé. Des scrutins indécis qui ne laissent qu'une certitude, la place des femmes en Tunisie devrait être réduite à portions congrues.
Nous irons en Slovaquie également. La nouvelle présidente du pays, Zuzana Čaputová, élue en mars dernier, alerte sur les dangereux liens entre la justice slovaque et la pègre locale. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, Maxime, logement, pourquoi les prix continuent-ils de monter? On posera la question à un économiste, Guillaume Chapelle.
C'est une rentrée des classes qui transforme le visage du lycée tel qu'on le connaît. La réforme du ministre Jean-Michel Blanquer entre en vigueur après plusieurs mois de tension avec les professeurs. Elle concerne plus de 2 millions de lycéens qui font leur rentrée aujourd'hui. Ils sont 12 millions d'élèves au total à reprendre ce matin le chemin de l'école. Et si Jean-Michel Blanquer se dit ouvert au dialogue, cela n'a pas apaisé la colère des enseignants ni celle des élèves. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Maxime Fayol.
Vous avez pu constater que cette réforme interroge de nombreux lycéens qui entrent en première au lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud en région parisienne.
Oui, terminées les filières S, ES et L, les élèves de première doivent maintenant choisir trois spécialités. L'objectif de la réforme est de leur donner le choix dans les matières où ils se sentent le mieux. Sauf que dans la pratique, pour se rassurer, les élèves comme Antoine ont privilégié ce qui ressemble à l'ancienne filière S avec un mix mathématiques, physique-chimie et sciences économiques et sociales. Une manière de ne pas se fermer de porte pour ses études supérieures.
On ne sait pas vraiment ce que vont nous demander les écoles, ni encore comment elles vont s'adapter. Du coup, mieux vaut viser sur ce qu'on nous demandait avant pour être sûr de décrocher une place dans une école. On est quand même dans une société où les métiers qui requièrent les compétences intellectuelles et scientifiques sont plus favorisés que les métiers manuels.
Quant à Augustin, ce qui l'inquiète, c'est d'avoir dû choisir son orientation et donc ses trois spécialités, ce qui est beaucoup trop tôt, selon lui, dès la seconde.
On va avoir trois matières importantes qui vont nous faire rentrer dans une prépa ou une fac qui va jouer sur nous, alors qu'on n'a que 15 ans, 16 ans, voire peut-être 17 ans, et qu'on se dit qu'on va devoir jouer notre futur sur ces trois matières-là.
De son côté, Paul regrette qu'avec les spécialités, le niveau exigé est maintenant beaucoup plus élevé, ce qui l'a obligé à s'orienter en filière technologique.
Il faut avoir un gros niveau, par exemple en maths. On peut pas, comme avant, faire un peu de maths à un niveau moyen. C'est niveau difficile, niveau S, quoi. Donc pour ceux, par exemple, qui ont moins de bonnes notes, ils ont moins de chances de faire les maths, la filière scientifique un peu.
Mais que les élèves de première et le terminal de seconde se rassurent, Jean-Michel Blanquer n'exclut pas des évolutions sur la réforme du lycée dès cette année.
Le reportage signé Hakim Kasmi pour France Culture. Il n'y a pas que cette réforme du lycée que le gouvernement aura à gérer en cette rentrée. Autre dossier explosif, c'est celui des retraites. Deux rendez-vous sont au programme en ce début septembre. Un séminaire gouvernemental mercredi. Et ensuite, les partenaires sociaux qui seront reçus par le Premier ministre Édouard Philippe en fin de semaine. Si les pistes de la réforme sont connues depuis plusieurs mois après le rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, une incertitude demeure, Anne Fauquemberg, c'est celle du calendrier.
Édouard Philippe communiquera seulement après ses rendez-vous de fin de semaine avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre semble avoir peu apprécié vendredi dernier la sortie de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Économie avait annoncé une série de consultations avec la société, laissant présager un report du projet de loi. Il n'en sera rien, a recadré Édouard Philippe, précisant sa détermination à présenter le texte, je cite, « ces prochains mois », sans préciser toutefois s'il le ferait avant ou après les municipales. Quant à cette concertation citoyenne, elle aura bien lieu, confirme Matignon, mais la forme n'est pas encore calée. Quoi qu'il en soit, elle ne remettra pas fondamentalement en cause le texte dont l'architecture est déjà dessinée avec les deux piliers du régime unique et du système par points. Il s'agirait plutôt d'un étage supplémentaire de maturation du projet de loi, d'un étage de prudence, pourrait-on dire aussi. Car si sur les retraites, certains arguments ont déjà infusé dans la société pour justifier les réformes, comme le vieillissement de la population, l'éducation. Les 5 textes qui se sont enchaînés depuis 2003 ont toujours donné lieu à de fortes mobilisations sociales. Le projet de loi d'Édouard Philippe est encore plus ambitieux avec la remise à plat des 42 régimes spéciaux. Des préavis de grève dans le secteur des transports notamment sont déjà prévus pour la mi-septembre.
Anne Fauquemberg, le gouvernement qui est également sollicité par les associations féministes, elles ont manifesté hier à Paris après la mort d'une 100e femme sous les coups de son conjoint depuis le début de l'année. Ces associations veulent des actes concrets et plus forts que le Grenelle contre les violences conjugales qui débute demain à Matignon. Les femmes dont la place s'annonce déjà réduite dans la future équipe politique en Tunisie. La campagne présidentielle débute aujourd'hui dans le pays. 26 candidats sont en lice et seulement 2 femmes. Les Tunisiens qui voteront ensuite pour renouveler leur parlement. Et là encore, Maureen Mercier, la seule certitude, c'est que les femmes verront leur place réduite, elles qui ont eu pourtant une place prépondérante depuis la révolution de 2011.
Sur les 26 candidats à la présidence, 2 femmes seulement.
Vous allez voter ?
Pour Nabil Karoub, parce que les riches, ils ne vont pas nous voler.
Pour Chehet.
Pour Abir Moussi.
Abir Moussi, avocate, ancienne collaboratrice et fervente admiratrice du dictateur Ben Ali, et qui défend le retour d'un régime présidentiel puissant. Est-ce que ces femmes tunisiennes lui réserveront leur voix ?
S'il y aurait d'autres femmes, bien sûr, on aurait... Mais Abir Moussi, c'est... déjà, n'accepte pas la démocratie.
Franchement, c'est la honte. Pour la Tunisie et surtout pour les femmes tunisiennes.
Les femmes ne se sentent pas bien représentées pour la présidentielle. Pire, elles risquent de perdre beaucoup de sièges à l'Assemblée. Or, depuis la révolution, le pouvoir est entre les mains du Parlement bien plus que dans celle du président. Kaola Ben Aïchia, députée depuis 2014, elle représente les Tunisiens établis en France, arrivée pleine d'espoir après la révolution. Oui, elle souhaite rempiler, mais...
Pour nous, la loi électorale est une fierté, qu'on soit parmi les rares pays au monde qui imposent la parité verticale. Sauf que aujourd'hui, vu le nombre très très important de listes électorales. Tous les partis et toutes les listes ont en majorité des hommes en tête de liste. On va avoir beaucoup moins de femmes à l'Assemblée. Oui, c'est beaucoup de déception, c'est très très frustrant.
Ces dernières années, les partis ne cessent de se quereller, se scinder, se déchirer. Et les batailles d'égo sont féroces au point que la loi qui tend à préserver la présence des femmes en politique ne suffira pas. En matière d'égalité, la Tunisie s'apprête à faire un pas en arrière.
Le reportage à Tunis de Maureen Mercier. Les images impressionnantes font le tour du net et des télévisions américaines. En ce moment, l'ouragan Dorian a frappé les Bahamas hier avec des vents de plus de 300 km/h. Il est classé en catégorie 5 sur une échelle de 5. Dorian qui pourrait frapper les côtes de la Floride et de la Géorgie dans les heures et les jours à venir.
7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal de Maxime Fayolle. On s'oriente vers une semaine décisive au Royaume-Uni.
Le Parlement rouvre ses portes pour quelques jours avant la suspension de 5 semaines décidée par Boris Johnson. Le bras de fer s'engage entre le gouvernement et le Parlement. Et ce sont les députés conservateurs qui vont avoir un rôle à jouer, Marina Daras, celui de suivre leur Premier ministre ou bien de quitter leur parti.
Les députés de l'opposition britannique ne disposent que de quelques jours pour mettre en place une alternative et empêcher un Brexit sans accord comme l'envisage Boris Johnson. D'après Keir Starmer, le ministre en charge du Brexit dans le cabinet fantôme de l'opposition travailliste, il existe une solution très simple pour légiférer sur le rôle du Parlement, mais il faudra attendre mardi pour en savoir plus sur les détails de cette nouvelle loi. La question est de savoir combien de députés conservateurs voteront alors contre le gouvernement et avec l'opposition pour empêcher un Brexit sans accord. Boris Johnson ne disposant que d'une majorité infime au Parlement, une poignée de frondeurs suffirait pour que l'opposition l'emporte. Une 20aine d'entre eux, dont l'ancien chancelier Philippe Hammond et l'ancien procureur général Dominic Grieve, seraient prêts à rejoindre en cette occasion le mouvement d'opposition et tenter d'empêcher le gouvernement de forcer un Brexit sans accord. La pression est énorme pour les députés conservateurs car voter contre leur gouvernement pourrait entraîner sa chute et donner au parti de l'opposition une opportunité en or de reprendre le pouvoir lors de prochaines élections générales. Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson, a même menacé les députés conservateurs de destitution du parti s'ils venaient à voter contre Boris Johnson. Autre point d'ombre dans ce bras de fer infernal, en cas de victoire de l'opposition, le gouvernement décidera-t-il d'obéir à cette nouvelle loi ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que le ministre en charge des préparations sur le Brexit, Michael Gove, a refusé de garantir que le gouvernement s'y conformerait.
Les précisions de Marina Daras. En Allemagne, l'extrême droite réalise une percée hier lors lors de deux élections régionales en Saxe et à Brandebourg. L'AFD, Alternative pour l'Allemagne, se classe deuxième dans chacun de ses scrutins dans les anciens Länder d'Allemagne de l'Est. Ces régions restent dominées toutefois respectivement par la CDU d'Angela Merkel et par le Parti social-démocrate. En Slovaquie, c'est un tout autre constat tiré par la présidente Zuzana Čaputová. Alors que l'enquête pour retrouver les assassins du journaliste Jan Kuciak est toujours en cours, la présidente confie que la justice slovaque n'est pas indépendante. Elle soupçonne, Alexis Rosenzweig, des liens entre la pègre en Slovaquie et les plus hautes sphères de l'État.
Officiellement investie il y a deux mois seulement, Zuzana Čaputová sait qu'elle est porteuse d'espoir pour de nombreux Slovaques, mais également dans les capitales européennes qu'elle visite depuis quelques semaines et où elle est félicitée pour sa victoire contre des forces populistes. Après Paris et Berlin, c'est à Vienne ce week-end que la nouvelle chef de l'État a rappelé que l'état de droit n'était pas un acquis dans son pays, où l'emprise de la mafia locale sur les pouvoirs judiciaires et exécutifs est révélée au grand public. Au fur et à mesure qu'avance l'enquête sur le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée en février 2018. Ces derniers jours, les Slovaques ont notamment pu lire dans la presse de nombreux textos échangés par Marian Kočner, commanditaire présumé de ce double assassinat et une des figures de la pègre locale qui a réussi à mettre dans sa poche des hauts gradés de la police et des magistrats influents, voire des responsables politiques. Selon Zuzana Čaputová, le futur procès de cette affaire doit marquer un tournant dans la jeune histoire de la Slovaquie, dont la représentation nationale doit, selon elle, être changée en profondeur lors des prochaines élections législatives qui seront organisées 2 ans, presque jour pour jour, après le drame sanglant qui a traumatisé le pays. Pour aboutir à ce procès très attendu, l'enquête devrait être bouclée au mois de novembre, en tout cas d'après les informations fournies par un procureur qui garde l'anonymat en conférence de presse et dont seules les mains sont filmées pour raison de sécurité.
Les précisions d'Alexis Rosenzweig. La météo de ce lundi, du soleil un peu partout en France. Quelques nuages bas sur les Pyrénées ce matin, mais les éclaircies vont dominer en journée. Les températures sont plutôt fraîches ce matin avec de 8 à 13 degrés au nord jusqu'à 17 au sud, Guillaume Erner.
Merci Maxime Fayolle.